L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, en Belgique, des candidats exclus des élections communales d'octobre prochain pour avoir tenu des propos racistes et homophobes. En Suisse, le revirement de l'opinion qui ne serait plus franchement favorable à une agriculture et une alimentation durable. Au programme également, au Canada, la première greffe de visage. En France, le plan pauvreté du président Macron. Et en Afrique, l'effondrement d'un pont qui perturbe le transport des marchandises entre le Bénin et le Niger. C'est l'actualité francophone. Bienvenue à tous. Amélie Tullet pour RFI, votre personnalité de la semaine, c'est le jeune mathématicien français Maurice Audin, disparu en Algérie il y a 61 ans. Il était un partisan de l'indépendance algérienne.
Oui, et il avait 25 ans en 1957 quand des militaires français sont venus le chercher chez lui à Alger. Sa famille ne l'a jamais revu, mais ce jeudi, sa veuve a reçu la visite d'Emmanuel Macron. Le président français lui a remis une lettre. La France reconnaît que son mari est mort sous la torture. Mais il n'y a pas eu qu'un seul Maurice Audin en Algérie. On estime à plusieurs milliers les disparus de la guerre. Autre annonce historique cette semaine de l'Élysée, l'ouverture des archives nationales sur le sujet aux historiens et aux familles.
Inquiétude en Belgique sur le sort d'une jeune Belge responsable d'un mouvement étudiant au Nicaragua où elle a été arrêtée, Pierre-Yves Meugens.
Amaya Coppens, qui vit au Nicaragua, où elle est étudiante en médecine, mais aussi dirigeante du mouvement estudiantin du 19 avril. Un mouvement de contestation. Il y a quelques semaines, ses deux frères déjà ont fui le pays à cause de la situation politique et du niveau de sécurité qui se sont détériorés. Selon des informations de la police locale, Amaya Coppens sera poursuivie pour terrorisme, séquestration, incendie et autres délits. La jeune Belge est la quatrième dirigeante d'un mouvement étudiant arrêté par la police pour avoir protesté contre le régime de Daniel Ortega.
La mobilisation en France pour sauver la seule otage française encore retenue dans le désert africain. Elle s'appelle Sophie Pétorin. Elle a 75 ans. Elle a été enlevée au Mali depuis plus de 600 jours. Elle dirigeait là-bas une association d'aide aux orphelins. Aujourd'hui, sa famille demande à l'Élysée de se préoccuper de son sort. Et cette semaine, une ancienne otage, Ingrid Betancourt, a exhorté le président Macron de recevoir enfin la famille de l'otage. Sophie Pétorin souffrirait d'un cancer et du paludisme. Elle est apparue très affaiblie dans une dernière vidéo reçue au début du mois. Benoît Audet, au Canada, cette semaine, ce sont les joueurs d'une équipe de hockey sur glace qui ont retenu votre attention.
Oui, les joueurs d'une équipe junior, les Broncos de Humboldt, qui avaient été décimés dans un grave accident de la route le printemps dernier. L'équipe a sauté sur la glace dans un match de saison régulière pour la première fois cette semaine avec une majorité de nouveaux joueurs. Ce match était une façon de tourner la page un peu plus sur une tragédie qui a marqué profondément cette communauté.
En Suisse, Pierre Anchoffat, c'est à nouveau Pierre Maudet qui est à la une de l'actualité.
Oui, je vous parlais la semaine dernière de ce ministre genevois qui avait menti à ses collègues et aux citoyens sur la nature de son voyage à Abu Dhabi, un cadeau du prince héritier de l'Émirat. Eh bien, l'étau se resserre autour du libéral radical. Après deux nouvelles séances de crise avec ses collègues du gouvernement, il a cette fois accepté de renoncer à la présidence et a été contraint de lâcher plusieurs dossiers de son département. Pour l'instant, Pierre Maudet s'accroche, même si la présidente nationale de son parti s'est interrogée publiquement sur sa réelle capacité à gouverner.
C'est donc une tempête politique en Belgique. Un mouvement de jeunesse flamand a choqué le pays après des propos racistes et xénophobes révélés par un reportage. Pierre-Yves Meugens, plusieurs membres de ce groupe se présentaient aux élections communales d'octobre prochain.
Oui, Schilden Vrienden, c'est le nom de ce groupe de jeunes hommes, pour la plupart encore étudiants. Ils disent vouloir défendre les valeurs de la Flandre, ça c'est pour le discours nationaliste devant les caméras. Mais un reportage de la VRT, la télé publique flamande, diffusée la semaine dernière, révèle un tout autre visage. Notre confrère a eu accès à des échanges secrets entre les membres du groupe sur un site internet. Racisme, xénophobie ou encore islamophobie lorsqu'ils commentent par exemple la photo d'une femme voilée sur un quai de gare.
Un nouveau fantôme est signalé à Bruxelles Nord. Quand tu tiens un bébé noir contre ton oreille, tu peux entendre les sirènes de police.
Des propos nauséabonds, mais ça ne s'arrête pas là. Apologie du nazisme, homophobie, sexisme, blagues sur l'Holocauste. Certains membres se comparent même à Hitler sur des photos. Alors ils nient, mais les images font froid dans le dos. Les réactions politiques sont immédiates. John Crombé est le président des socialistes flamands.
Quand vous voyez comment ils réagissent contre les juifs, les personnes de couleur et contre les femmes, et que vous voyez qu'ils sont armés, c'est le plus angoissant.
Angoissant car le reportage révèle aussi la stratégie d'infiltration de ce groupe. Le fondateur de Schildenvrienden siégeait au conseil d'administration de l'université de Gand. Il a été exclu depuis, tout comme 4 membres qui faisaient partie du conseil flamand de la jeunesse. Et puis plusieurs adhérents de Schildenvrienden étaient aussi sur les listes électorales de la NVA, le premier parti du pays. Ils ont tous été exclus.
C'est une séquence politique et sociale importante pour le gouvernement français. Le plan pauvreté a été dévoilé par Emmanuel Macron, 8,5 milliards prévus sur 4 ans. Alors parmi les mesures phares, il y a la prise en charge des plus jeunes jusqu'à 21 ans et non plus 18, des petits déjeuners gratuits dans les écoles des quartiers défavorisés, des repas à 1 euro dans les cantines des quartiers prioritaires, également une formation obligatoire pour les jeunes de 16 à 18 ans. Au programme encore, un revenu universel d'activité en 2020. Il s'agit de regrouper en un seul revenu l'ensemble des aides promises aux plus démunis, une fusion des aides sociales pour en finir avec ce que le chef de l'État appelle le cauchemar bureaucratique quand les plus démunis finissent par renoncer aux aides auxquelles ils ont pourtant droit.
Ne pas avoir l'impression de devenir dépendant d'un système d'aide. Or ce sentiment de dépendance, il existe. Et avec lui, l'humiliation qui l'accompagne, la peur du regard, la honte d'être considéré comme un incapable, la honte de demander. Et c'est tout cela, ce que je vous décris, point à point, qui a contribué à déshumaniser la lutte contre la pauvreté.
Un plan pauvreté d'Emmanuel Macron qui a été plutôt bien accueilli par les associations. Des critiques tout de même dans l'opposition qui reproche au chef de l'État français de rester le président des riches. Les Suisses iront aux urnes le 23 septembre prochain pour se prononcer pour ou contre deux initiatives autour d'une agriculture et d'une alimentation plus responsables. Pierre Anchoffat, à une semaine du scrutin, eh bien le soutien à ces deux textes s'érode sérieusement.
Oui, prenant toutes deux une agriculture écologique et durable, l'initiative pour des aliments équitables et l'initiative pour la souveraineté alimentaire, bénéficiaient cet été d'un puissant capital de sympathie, renforcer l'offre de denrées sûres et de bonne qualité, un postulat séduisant après plusieurs scandales alimentaires, tout comme l'idée de défendre une agriculture de proximité. Mais voilà, après un mois de campagne, le camp du oui a reculé de 25 points, une tendance qui laisse présager un rejet la semaine prochaine.
Et Pierre-Henri, qu'est-ce qui explique ce revirement de l'opinion suisse ?
Eh bien, un argument des opposants a particulièrement fait mouche, au grand soulagement de l'UDC Célina Modru, celui du porte-monnaie. Les prix des aliments déjà élevés en Suisse risqueraient d'augmenter encore.
Il y a vraiment l'histoire du prix, mais il y a aussi de savoir ce qui est réaliste et ce qui n'est pas. L'important et l'essentiel est mis dans la Constitution. Ces deux initiatives sont juste irréalistes et irréalisables. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui parle aux citoyens de ce pays.
Le Vert, Robert Kramer, dénonce, lui, la disproportion des moyens engagés.
C'est quand même extraordinaire de voir des gens qui, naturellement, sont en faveur d'un projet. Et puis ensuite, c'est vraiment David contre Goliath. Le rouleau compresseur des slogans se met en marche. Et on recule et cette campagne a été vraiment menée de façon très étrange.
Les milieux économiques ont en effet mené une forte campagne et outre l'argument du prix, ils ont marqué des points en tirant la sonnette d'alarme sur nos accords commerciaux avec nos voisins qui seraient menacés par la volonté des initiants d'imposer les mêmes normes de qualité aux produits importés. Entre idéal et contraintes économiques, le citoyen tranchera.
Au Canada, c'est une grande première médicale. Des médecins de Montréal ont réalisé la première greffe de visage au Canada. Benoît Audet, ce type d'opération, alors même si ce n'est pas une première mondiale, demeure tout de même encore un exploit.
Oui, tout à fait. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'un homme qui a été victime d'un accident de chasse. Il n'avait plus de nez, de mâchoire ou encore de dents. Il s'alimentait très difficilement. Après avoir subi 4 chirurgies de reconstruction, il souffrait encore terriblement et c'est un chirurgien qui lui a proposé une opération risquée, soit une greffe de visage.
Et une opération risquée et aussi une opération très particulière.
Oui, écoutons à ce sujet le chirurgien Daniel Borsuk, qui a une vision très intéressante du travail qu'il a accompli.
Une greffe de visage, ce n'est pas juste un organe. En greffe, plus que c'est, il y a une identité qui est greffée. Il y a la façon qu'on interagisse avec le monde et la façon que le monde interagit avec nous, c'est par notre visage. Alors, qu'est-ce qu'on a greffé? C'était plus que ça. C'était très spirituel. Il y a plusieurs moments pendant l'expérience que tu réalises que tu fais plus que juste une chirurgie, tu fais juste que juste une greffe.
Pour le moment, tout va pour le mieux. Le patient récupère bien. Il n'y a pas eu de rejet. Il réapprend à vivre avec son nouveau visage. C'est donc un grand moment dans l'histoire médicale canadienne. La première greffe du genre a eu lieu en France en 2005 et on en compte au moins 45 dans le monde depuis cette première.
On part maintenant en Afrique, à la frontière entre le Bénin et le Niger, où l'effondrement d'un pont perturbe sérieusement le transport de marchandises, Amélie Tulé.
Oui, c'est le pont de Malanville, principal point de passage entre l'extrême nord du Bénin et le sud du Niger. C'est par ce pont que passent les camions qui font la liaison entre Niamey, capitale d'un pays enclavé, et le port de Cotonou, tout au sud. Seule ouverture vers le golfe de Guinée, ce pont de Malanville s'est effondré le 5 septembre à cause des intempéries. Résultat, plus de 800 camions bloqués avec leurs marchandises d'un côté comme de l'autre de la frontière, des denrées parfois périssables, un manque à gagner pour les commerçants. Et avec cette coupure de l'axe routier vers la mer, c'est aussi un risque de pénurie qui se profile pour certains biens sur les marchés du Niger.
Alors Amélie, quelles solutions sont proposées aux transporteurs et autres importateurs?
Les autorités disent qu'il faudra plus d'un mois pour reconstruire le pont. En attendant, un contournement par le Burkina Faso a été décidé. Le Niger va négocier avec son voisin pour que des facilités soient accordées aux poids lourds pour éviter des surcoûts trop importants. Mais avec des délais de trajet plus longs, la hausse des prix est inévitable. Alors pour écouler les oignons nigériens, les transporteurs veulent passer par le Ghana, le Togo ou encore la Côte d'Ivoire. En attendant, sur le fleuve, entre Bénin et Niger, les piroguiers vont faire des affaires et vendre leurs services pour transporter les marchandises.
Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci à tous les contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.